Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SAFIA, le podcast qui explore la relation entre l'intelligence artificielle et le droit sous tous les angles, avec clarté et simplicité, mais surtout sans artifice. L'IA est déjà partout, notre quotidien, nos choix, nos métiers et même nos pensées. Mais devons-nous la laisser transformer notre réalité sans nous poser les bonnes questions, sans saisir pleinement ses conséquences sur nos vies ? Je suis Safia Kerbouch, avocate et passionnée par les enjeux du numérique. À chaque épisode, j'ai le plaisir de tendre le micro à un expert d'une discipline différente pour qu'il partage avec nous ses éclairages sur cette révolution technologique. On décrypte ensemble les grands enjeux de l'intelligence artificielle pour comprendre aujourd'hui ce qui dessinera demain. Alors installez-vous confortablement et je vous présente notre invité. Bonjour Alina Krasnobrdza.
Bonjour à toi.
Bonjour. Tu es maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, CTO dans différentes startups et co-autrice de l'ouvrage La Révolution IA, quand l'intelligence artificielle réinvente l'entreprise, en plus de partager ton temps entre la Silicon Valley et la France. Est-ce que j'ai tout dit ?
Exactement. C'est bien moi. Bonjour.
Bonjour. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup de questions sur l'IA, que tu es donc docteur en mathématiques, c'est bien ça. Et tu vas peut-être pouvoir répondre, alors j'ai toujours une question un peu générale au début, sur la question de la souveraineté. Qu'est-ce que l'IA souveraine ?
Alors, oui, tu as tout à fait raison. Je suis un docteur en mathématiques plutôt appliquée et c'est d'où vient mon parcours qui m'a amené à l'IA, qui je pratique depuis plusieurs années de façon scientifique et de façon applicative, qui est vraiment aussi si intéressant qu'applicatif. Et pour répondre à ta question sur l'IA souveraine, l'IA souveraine, c'est une question très politique et très large, tout d'abord, parce que aujourd'hui, je pense que l'IA souveraine, il n'existe pas. L'IA, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Là, on parle plutôt de l'IA générative, les modèles de type de ChatGPT, Claude Anthropique, DeepSeek, etc. Donc ça, c'est les modèles de l'IA générative qui prend plus en plus place dans nos vies et qui y a beaucoup de gens qui nomment maintenant l'IA, sachant que l'IA, elle existe, comme on a déjà entendu parler depuis plus que 70 ans. Et l'IA souveraine, donc, si on parle à propos du modèle, le concept général, l'IA se comporte de trois parties qu'on ne peut pas séparer. Donc, l'IA, c'est les données d'entraînement. L'IA, c'est les serveurs sur lesquels on héberge les modèles. Et l'IA, c'est le modèle elle-même. Donc, ça veut dire que on peut imaginer, c'est un fichier de paramètres numériques qui on garde quelque part. Donc, ces trois composants qui vont créer un modèle de l'IA. Donc, et si on parle de l'IA souveraine, j'aurais défini que l'IA souveraine, c'est si les données, l'infrastructure et le modèle, il vous appartient et vous contrôlez ce qu'il y a dedans.
Finalement, si on contrôle ce qui entre dedans, comment ça fonctionne et ce qui en sort ?
On ne sait pas ce qui en sort parce que l'IA, elle reste une boîte noire, bien sûr, mais au moins, on sait quelles données sont utilisées pour entraîner les modèles. Donc, si on prend l'exemple des grands modèles de langage, qui sont très à la mode actuellement, donc ces modèles, ils sont entraînés sur les données, large quantité de données. C'est ce qui donne ces modèles, ces capacités génératives, donc générales, plutôt générales, oui. Les modèles qui sont capables de générer les textes, faire summarisation, faire les traductions, etc. Avant, pour chaque tâche comme ça, on a un modèle de l'IA séparé qui était bon dans une seule tâche. Aujourd'hui, cette IA générative, ils sont bons dans les plusieurs tâches, ce qui nous amène dans les notions de AGI, donc on ne va pas se séparer, donc c'est Artificial General Intelligence, mais on n'est pas sur ces questions maintenant. Ces modèles-là, ils sont entraînés sur les données, large quantité de données. Et ces larges quantités de données, ils sont collectées sur différentes sources, donc les sources internet, mais aussi les sources privées. Et on ne sait pas trop d'où proviennent ces données. Donc c'est une grande question. Il y a les données qu'ils ont IP sur ces données, il y a les données privées. Donc comme ces modèles appartiennent aux entreprises privées et ont accès à ces modèles juste par le endpoint, par le API, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans.
Alors API, API, c'est quoi?
API, c'est juste une interface qui nous permet de communiquer avec un logiciel. Donc, c'est comme un connecteur entre front et back-end. Donc, c'est une notion technique qu'on utilise dans le développement informatique. Et derrière cette API, il y a le modèle de l'IA qui on va interagir via une inférence. Donc, comme on met un prompt, cette prompt rentre dans l'API et cette API appelle le modèle qui est situé à back-end quelque part aux États-Unis, qui appartient à OpenAI. Et du coup, il va nous renvoyer une réponse. Et c'est notre prompt qui était rentré dans cette API, il va appartenir aussi à OpenAI. D'où il y a aussi cette souveraineté, importance de souveraineté de l'infrastructure qu'on utilise pour faire marcher ces liens ou pour les faire tourner. Donc voilà, les premiers points, c'est les data. Les data, elles doivent être souveraines. Elles doivent être accessible à tout le monde. Si on parle de l'IA souveraine ou du point de vue national, on va dire, donc si on veut créer un IA souveraine française, il doit parler la langue française, c'est vrai, et aussi d'autres langues telles que breton ou d'autres dialectes qui existent aujourd'hui en France, ce qui n'est pas le cas de l'IA générative qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc pour ça, il faut avoir une base de données française qui représente les valeurs de chaque Français, leurs données, leur langage, leur histoire. Après, on peut parler à propos de modèles elles-mêmes qui doivent être entraînés. Donc ça c'est le problème, on va dire, le plus facile d'entraîner une modèle parce que il y a beaucoup de gens qui savent bien le faire. Je pense que c'est pas ça la question. La question aussi c'est les data centers. Donc il faut énormément de puissance de calcul pour faire entraîner ce modèle. Donc, c'est, je dirais, des mois. Il faut une quantité colossale d'énergie et les puces qui permettent d'entraîner les modèles de langage, enfin, de grands modèles de langage, qui on parle maintenant. Voilà.
Ok, donc il nous faut des données à l'origine qui sont françaises. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun LLM qui fonctionne purement sur des données nationales. Elles ont toutes été entraînées sur des données mondiales.
Exactement. Donc, comme on entraîne un LLM global, donc le plus grand problème, c'est avoir les quantités de données nécessaires pour entraîner ce modèle. Ils sont très larges parce qu'ils sont entraînés sur les larges corpus des données textuelles. Donc on va se limiter juste au modèle textuel d'un NLP, on ne va pas rentrer sur multimodalité. Et pour l'instant, les données qui sont utilisées, c'est les données d'Internet qui appartiennent plutôt à culture de l'Ouest, donc américaine, l'Europe de l'Est, qui est représentée plutôt par les hommes blancs de classe élevée et qui sont donc il y a les entreprises comme Common Crawls qui collectent toutes les données disponibles sur Internet depuis 2007, donc ça fait une quantité de données massives, plus elle ajoute tous les open source, toutes les librairies disponibles, mais c'est plutôt les données anglophones qui représentent la culture saxonne, anglo-saxonne, voilà. Et si on parle à propos de langue française, et on ajoute les petites portions des langages du corpus français pour faire un modèle apprendre les logiques de la grammaire et de vocabulaire français pour être suffisant pour répondre à un français moyen, mais bien sûr, c'est pas parfait. Et ce modèle qui existe aujourd'hui sur le marché, il pense plutôt comme quelqu'un de la Californie, de la Californie à San Francisco, plutôt que quelqu'un de Paris ou de Bretagne ou d'Aix-en-Provence. Okay. Voilà.
Donc, est-ce qu'il est possible, donc, puisque ces LLM ont été testés sur des data mondiales, est-ce qu'il est possible de les modifier pour qu'elles comprennent la culture et les données exclusivement d'un pays?
C'est extrêmement compliqué. Je connais une personne qui a pour l'ambition de faire en sorte que chaque pays il a son LLM souverain, donc qui sera bientôt un enjeu. Donc je pense que c'est vraiment une cause très courageuse. Donc, et il y a deux choses. D'abord, on peut entraîner le modèle from scratch, donc à partir de données brutes qu'on a. Et deuxième chose, c'est on essaye de fine-tuner les modèles existants en rajoutant plus d'exemples sur les langues d'origine. Et du coup, ce personne, il a essayé de le faire pour les langues ukrainiennes. Donc moi, j'ai d'origine ukrainienne. Et comme vous savez, il y a un grand conflit entre la Russie et l'Ukraine et on a soumis une désinformation permanente entre, par la Russie. Et langue ukrainienne et russe, bon, ils se ressemblent, mais ce n'est pas la même langue. Et on sait qu'il y a beaucoup d'informations maintenant sur Internet. Elle est créée par les modèles de l'LM, donc en ukrainien, pour informer les populations ukrainiennes. Mais le langage, il n'est pas parfait. Donc, le langage ukrainien, il n'est pas parfait, même s'il a ajouté les quantités des exemples suffisants pour pouvoir parler. Donc, c'est ce qui va passer avec n'importe quelle langue. Donc, peut-être en français, il y a un peu plus d'exemples textuels qu'en ukrainien, mais c'est ce qui se va passer. Et on voit déjà, on peut voir ça sur l'exemple, par exemple, qui a inventé l'avion. Si on va demander ChatGPT qui a inventé l'avion, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bah, il va nous dire c'est les frères Wright. Et après, si on va demander Gemini, il va nous dire c'est les frères Wright. Mais il y a aussi les Clément Ader qui a volé il y a quelques années plus tard, mais il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a inventé l'avion. Pourquoi? Parce que c'est pas les Américains qui l'ont inventé. Donc, bah, c'est les Américains qui ont inventé, selon les Américains, mais pas selon les Français. Mais chaque Français, il va dire qu'il a inventé l'avion, ce sera Clément Ader. Donc, cette bias historique, il est toujours présent. Et c'est vraiment important dans nos métiers, parce que dès que ça va toucher les moments historiques ou les droits, donc qui tu connais mieux que moi, on va voir vraiment les problèmes sur les LLM existants qui ne vont pas pouvoir répondre de façon correcte. Donc, non, on ne peut pas juste ajuster les modèles existants. Il faut réentraîner les modèles souverains françaises qui vont avoir tout le corpus de connaissances des Français qui vont représenter les valeurs françaises, les droits français et tout ce qui est associé avec ce pays. La culture, l'histoire, les connaissances, les personnalités, les... Parce qu'il y a beaucoup de points touchy entre l'histoire, entre les États-Unis, la France et tous les autres pays. Donc, c'est, je pense, c'est un grand sujet.
Finalement, c'est vraiment important, c'est qui tient la plume de l'histoire. Parce que si le LLM est entraîné par des Américains qui voudront faire passer les Américains pour les bons de chaque histoire, bah dans quelques années, on le pensera tous, puisque ce sera les seules réponses que donneront les LLM.
Exactement, et on voit déjà que... qu'on va avoir l'université de pensée, donc les réponses qui sont produites par le ChatGPT ou par d'autres modèles de LLM, ils sont à peu près normés. Donc, et s'il y a beaucoup, enfin, plus en plus de gens qui vont interagir avec ces modèles, plus si on va prendre les enfants et les adolescents qui ne sont pas encore, qu'ils ne connaissent pas avec quels outils ils interagissent, ils peuvent complètement perdre le sens d'orientation. Donc, du coup, comment un humain est capable de distinguer les vérités, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc on est en train de normaliser les connaissances universelles et on est en train de tendre vers les connaissances et les vérités qui proviennent de la côte ouest des États-Unis.
Donc on aura tous une fausse vérité qui sera celle de la côte ouest des États-Unis.
Il sera peut-être pas fausse, mais si on veut préserver l'identité des Français, le langage, la culture, l'identité numérique, c'est très important de s'engager dans la souveraineté et de construire. Donc aujourd'hui, est-ce que tu connais quelle est la quantité de souveraineté, donc si on peut le quantifier, appartient à la France? Donc c'est quoi le pourcentage de souveraineté française numérique?
Alors, j'ai déjà pas l'habitude qu'on me pose les questions dans ce podcast, mais je vais dire par exemple 15%.
Moins de 1%.
Oh, ok.
Donc, on est vraiment... il y a un grand problème national, pas que la française, mais européenne, on est tous dépendants de cloud américain, des produits qui proviennent de Californie. Donc, toutes les stacks de tech, ils proviennent de Californie et toutes les données qui sont hébergées sur la cloud américaine, il appartient aux Américains. Voilà, donc c'est une question cruciale et il faut prendre en sérieux ce problème si on veut garder notre souveraineté digitale au futur.
Est-ce que c'est, techniquement, est-ce que c'est encore possible?
Ouais, je pense que oui. Une des solutions, c'est open source. Donc, qu'est-ce que ça veut dire open source? C'est la science ouverte, donc la présence de open, elle existe depuis plusieurs années, donc open software. Là, on parle à propos de modèles d'open source. Il y a les modèles open source, ça veut dire que les modèles, il est disponible avec ses poids, donc ses paramètres qui sont entraînés, donc le modèle elle-même, les données sur lesquelles il était entraîné et toutes les caractéristiques qui vont avec, donc tout le descriptif du modèle. Donc c'est open, on l'entraîne, on le pose à disposition de tout le monde. Ce qui s'est passé avant dans la science, avant ChatGPT arrive, et avant, d'ailleurs ChatGPT appartient à OpenAI, qui veut dire open parce qu'il a travaillé sur le bien commun, sur open source, et les modèles, il était open jusqu'à ChatGPT 3. Voilà. Depuis, pour les raisons économiques, X, Y, Z, ils ont beaucoup de problèmes eux-mêmes. Je ne suis pas là pour les juger. Ils ont fermé leur modèle. Donc là, on a accès juste à cette API qui nous permet de communiquer avec ChatGPT. Mais il existe toujours les modèles open source ou open weight. Donc il y a une autre notion qui existe aujourd'hui, c'est les modèles open weight. Modèle open weight, c'est quand on a accès au poids de paramètres du modèle. Donc c'est cette modèle elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on n'a pas accès aux données, on n'a pas accès à l'infrastructure à laquelle elle était entraînée. Par contre, on a accès au fichier qui contient les paramètres. Donc, c'est comme le cerveau du modèle. Donc, et qu'est-ce qui est l'avantage? C'est qu'on peut prendre cet fichier, on peut héberger sur le serveur local, française, par exemple, et construire notre propre ChatGPT et communiquer avec cet modèle d'open weight. Et aussi, on peut faire le fine-tuning. Donc, fine-tuning, c'est un changement léger de paramètres qui nous permet de changer le langage, de changer le ton ou ajouter les connaissances. Par exemple, si on veut passer de langage général à langage plus technique, médical, on peut appliquer les techniques de fine-tuning. Donc, c'est assez cher. Il faut avoir beaucoup de données pour le faire, pour que le modèle réapprend. Mais fine-tuning, il va tuner un peu ses paramètres, donc il va changer, pas complètement, mais un tout petit peu pour s'adapter à cette nouvelle langage. Et du coup, il va nous répondre avec langage un peu plus technique, celle qu'on a appris.
D'accord. Voilà. Donc finalement, on pourrait avoir accès à ce modèle donc, qui est en open source. On ne voit pas sur quelles données il a été entraîné, mais on peut mettre finalement les paramètres, les filtres et améliorer pour qu'il s'adapte à la culture dans laquelle on l'intègre.
Donc on peut le mettre dans le serveur local. Par exemple, on ne le met pas à le serveur aux États-Unis, on le met dans le serveur même, on peut connecter. On peut bricoler un peu chez nous et le mettre chez nous si on a deux. Donc on peut, si on a un gros ordinateur, plusieurs GPU, on peut héberger un grand modèle de langage localement ou sur un serveur français, sur OVH ou d'autres providers de cloud qui nous permettent de mettre en place ces choses. Mistral, c'est le modèle open weight. Donc, on peut utiliser Mistral. Donc, c'est une grande solution pour les grandes entreprises qui n'ont souvent pas droit d'utiliser les clouds américains. Donc, ils ont leur serveur. Donc, ils achètent leur GPU, ils hébergent leur modèle et ils l'utilisent pour les chats internes. Donc, sachant que le modèle open weight, il est rarement aussi bon que ChatGPT. Mais on peut faire beaucoup de choses. On peut protéger nos données, on peut protéger les données de nos utilisateurs, de nos clients et héberger tout localement. Donc l'open source, finalement, c'est une des solutions pour gagner cette souveraineté face aux Américains.
Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres techniques?
Il faut construire notre infrastructure, évidemment, parce que pour faire tourner ce modèle, il faut beaucoup de serveurs, il faut beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, c'est pas assez développé en Europe, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses qui se passaient depuis février dernier. Donc, suite à l'IA Summit, on est en train d'investir les milliers d'euros, les billions, les milliards d'euros dans l'infrastructure. Donc, ce qui, bah, à mon avis, que c'est avantageux parce que les seules choses qui vont changer dans les modèles de l'IA, c'est le compute. Donc, comme je dis, il y a trois composants. Il y a les données, le modèle elle-même, donc l'architecture, cet réseau de neurones, comment on met des réseaux de neurones, comment les stack et quel réseau de neurones on utilise. Donc là, ça, c'est figé depuis 7 ans déjà. Donc, c'est l'architecture de Transformers. Et après, il y a compute. Donc, compute, c'est un computational power. C'est la puissance du calcul qu'on peut avoir. Donc, et ces trois paramètres, ils sont liés. Donc, on peut mettre beaucoup de données, mais si on n'a pas suffisamment de compute, on ne peut pas processer toutes les données. Par contre, les données, ils sont plus disponibles. On a déjà utilisé toutes les données disponibles sur Web pour entraîner notre grand modèle de langage. Donc, il n'y a plus de modèle. Et donc, l'architecture, il ne change plus. Donc, pour l'instant, ils ont trouvé l'architecture de Transformers qui était découverte par Google et qui marche très bien sur le processus de texte. Donc, ça, ça reste figé. Par contre, la seule chose qui peut accélérer, c'est la quantité de computational power disponible pour processer toute l'IA. Donc, on peut les entraîner plus vite. Si on met plus de GPU, on peut l'entraîner plus vite parce que le temps et les quantités du calcul nécessaires pour procéder à un entraînement, on le connaît, on peut le calculer, on le mesure en flops, et du coup, c'est la unité du calcul nécessaire. Donc, si on met beaucoup de calculs, on peut entraîner les modèles de l'IA plus vite, ou si on a beaucoup d'utilisateurs qui veulent chatter avec Mistral et héberger localement, si on a l'infrastructure du calcul, on peut aussi soutenir toutes ces demandes de calcul. Donc finalement, c'est aussi une pointe de souveraineté pour pas faire appel à un cloud américain et garder toutes nos données locales. Après, on a déjà les acteurs de cloud, n'est-ce pas? On a Skywell, OVH, etc. Donc pourquoi on n'utilise pas eux? Pourquoi on est tous sur Azure, AWS ou Google?
Qui sont des Américains?
Qui sont les Américains? Donc ces trois solutions qui hébergent peut-être 10, je ne sais pas les chiffres exacts, mais presque toutes les applications, il appartient à cloud. Pourquoi les solutions françaises ils sont si peu utilisées? C'est parce qu'ils n'offrent pas si grande variété de software. Parce que dans les cloud, dans les calculs, il y a le cloud et il y a le hardware. Donc, c'est les puces GPU qu'on peut acheter chez Nvidia, qui valent très cher et qui ne sont pas disponibles, mais qui on peut quand même acheter. Et la deuxième partie, c'est les parties de software, ce qui permet aux utilisateurs, aux développeurs d'une application, de mettre leur outil, l'IA ou d'autres logiciels sur cette cloud. Et malheureusement, il n'y a pas assez de choix de software pour supporter les demandes de tous les utilisateurs. Voilà.
Ok. Bon, alors,
Mais les chemins, ils existent.
oui, non, mais
Il est
c'est
long.
oui. Oui, ça,
Il
c'est positif.
existe.
Là, tu nous as fait un peu un état des lieux de l'existant et de la question de la souveraineté actuellement. Donc, moi, je garde ce fameux 1% de souveraineté pour la France. Quel est l'avenir prévisible du développement de l'IA? Et alors d'abord d'une manière générale, et ensuite en quoi on peut aller rechercher une souveraineté européenne ou nationale par rapport à ces développements futurs prévisibles?
Bien sûr. Donc là, ce qui, donc comme j'ai dit qu'on a épuisé toutes les données, c'est-à-dire qu'avec l'architecture actuelle, même si on va augmenter le nombre de calculs, si on n'a plus de données disponibles, on peut plus ce qu'elle est nos modèles. Donc, je ne sais pas si tu suivis un peu, mais il existe les modèles de ChatGPT. Ils sont vraiment horribles avec les noms de leurs modèles parce que, bon, il y a 4, 4.1, 4.0, 4 mini, turbo, 3.5, O1, O3, etc. Donc, c'est, je pense, pour utilisateurs moyens, ce n'est pas très compréhensible, mais chaque modèle, et il y a un sens derrière, et il y a les nombres de paramètres qui suivent, les différentes fonctionnalités, etc. Et donc, ChatGPT, il est sorti en 2022. Il a commencé par 3.5, qui était disponible à tout le monde, et 4, il était fermé. Et après, là, il y a un modèle qui est sorti 4.1, qui était entraîné sur une qualité de quantité de données encore plus grande. Et pourquoi il y a différentes versions de données, de modèles et pourquoi ils sont plus performants? Parce qu'on met plus de données dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'était une observation empirique. C'est le scale law, c'est-à-dire que si on met plus de données pour la même architecture, notre modèle, il devient plus capable dans les capacités de langage, etc. Sauf que là, on n'a plus de données. Donc, il n'existe plus. Donc, quel est l'avenir de l'IA si on n'a plus de données? L'architecture, elle reste pareille. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté d'architecture. Donc, ouais.
Alors, juste pour le redire autrement, toutes les données contenues par la création humaine disponibles sur Internet depuis sa création ont déjà été utilisées par ChatGPT, par exemple, pour être entraînées. Donc là, il y a...
Exactement.
Ok, voilà.
Pas que Internet, mais aussi tous les livres, toutes les données et un libre accès, ou pas. Ça, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a plus de données. On va dire, en gros, il n'y a plus de données disponibles et l'humain, il ne crée pas autant de données nécessaires pour entraîner le modèle encore plus important. Donc, on ne crée pas autant. On essayait d'utiliser les données produites par l'IA, ce qui n'est pas tout à fait idiot, on va dire. Mais ça ne marche pas tout à fait bien pour le langage. Mais ça marche bien pour d'autres verticales. Donc, le développement de l'IA, les prochaines étapes, ce sera d'un côté, on va faire les verticalisations. Donc là, on a un modèle type ChatGPT 4o, type Claude Anthropique Sonnet 3.7, 4, etc. Donc, il y a ces modèles qui existent de langage général qui marchent bien. Maintenant, on va passer à vertical. À vertical de quoi? Le premier vertical le plus touché, c'est le vertical de création du code. Parce que le code, c'est le langage. Le code, c'est comment on parle avec ordinateur. Et là, si tu suis un peu ce qui se passe sur le marché depuis un an, peut-être, c'est juste quelque chose d'incroyable. On peut créer, et il existe maintenant les applications no code. Ça veut dire que les personnes non techniques comme toi, elles peuvent créer leur propre application. On peut passer de ligne de zéro code à une MVP, donc Minimum Viable Product, avec un démo qui marche dans moins de 15 minutes, d'accord, avec un agent IA qui va nous faire quelque chose. C'est quelque chose d'incroyable et je teste ça chaque jour. Et les modèles que j'ai utilisés il y a 2 mois, ils ne sont pas tout à fait les mêmes que j'utilise maintenant. Bien sûr, il y a les bugs, bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Bien sûr, les outils non code, ils sont perfectibles et ils ne marchent souvent pas. Mais il y a 2 ans, ça n'existait pas. Donc, il y a 4 ans, j'ai tapé chaque ligne de code moi-même et ça prenait beaucoup de temps. Là, on peut accélérer vachement notre développement de code et software, il devient démocratisé.
Donc, alors, juste pour que les auditeurs se fassent une idée, avant, on pouvait demander, donc un MVP, c'est un prototype, c'est le Minimum Valuable Product, donc c'est un prototype avec des fonctionnalités de base pour tester un produit sur un marché. Donc, ce prototype, il fallait entre, allez, on va dire 20 000, 40 000, 60 000 euros pour faire un développement des
Exactement.
fonctionnalités de base. Aujourd'hui, avec les OpenAI, on peut créer soi-même, sans faire de code, ce Minimum Valuable Product en 15. Alors, si Alina met 15 minutes, c'est parce qu'elle est mathématicienne. Moi, j'avoue que je passe un peu plus que la soirée pour en développer un. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances en informatique pour développer un prototype.
Exactement. Donc, on peut développer. Bon, il y a OpenAI, il y a ChatGPT, mais il y a aussi les solutions verticales qui existent. Donc, Claude, il est très fort.
il y a Claude Code. Il est très fort pour écrire le code parce que ce modèle, il était construit pour écrire le code. Donc maintenant, chaque modèle, il a quand même ses spécificités. Claude, elle parle de façon Claude et ChatGPT, il parle de façon GPT. Et les données qu'on met, donc je sais que Anthropic, ils ont fait un grand effort sur le développement, pour développer le modèle qui écrit mieux le code. Mais il y a aussi d'autres outils comme Cursor ou Windsurf ou Lovable ou Vercel. Donc c'est le nouvel outil qui n'existait pas il y a 2 ans. Et ces outils qu'on peut écrire, c'est ce qu'on appelle maintenant vibe coding. Donc on parle à une machine et elle crée le code pour nous et nous on a juste le contrôler et faire les versioning parce que bon, quand même, il faut admettre que parfois elle fait n'importe quoi, elle change, elle change les choses dans d'autres répertoires qu'il ne fallait pas changer et toucher.
Voilà. Ok. Tu viens de donner des ressources qui sont très précieuses hein, pour les personnes qui ne les connaissaient pas avant. Effectivement, on peut créer un site web avec un simple prompt. On peut créer une application avec un simple prompt. C'est assez exceptionnel. Et donc, c'est déjà tellement exceptionnel. Qu'est-ce qui reste encore à faire? C'est quoi la suite?
Il y a beaucoup de suites, il y a beaucoup de verticales déjà, donc il y a chaque métier qui a sa verticale. Donc si on dit la suite pour les coding, je pense que ça va juste s'améliorer. Dans un an, je pense on va le back-end, il sera complètement automatisé. Donc le back-end, tout ce qui est calcul derrière, il va nous juste vouloir faire un joli UI qui va nous distinguer. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'inventer et réinventer parce que l'utilisateur, il va changer. Donc, on va changer notre habitude de parler avec un ordinateur, avec notre téléphone. Donc, ça, ce n'est pas bougé depuis 20 ans. Quelque chose qui va arriver dans cet espace, je suis sûre. L'autre vertical, pas vertical, mais c'est les agents. Les agents, ils sont partout. On ne parle que des agents en ce moment. Donc, les agents, c'est les logiciels qui utilisent l'IA pour prendre la décision à notre place. Donc, les agents, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, on remplace les moteurs de décision par une LLM, donc c'est lui qui donc on peut créer un agent pour recherche de commentaires pour toi, pour ton cas précis dans le domaine de droit où tu exerces et tu peux imaginer une workflow qui va faire la recherche, qui va summariser les documents, qui va le mettre dans le format que tu veux, écrire un rapport et envoyer automatiquement à ton collègue par mail. Donc cet logiciel, on peut le créer avec les agents.
Ok, alors, comment ça fonctionne là encore? Parce que par exemple, pour le LLM, tu nous as bien expliqué, on a les données, on a l'architecture et on a la sortie. Je le dis moins bien que toi, évidemment. Mais, et là, pour les agents, comment ça fonctionne?
Pour les agents, les agents, c'est quelque chose qui amène beaucoup de débats sur les définitions des agents. Je ne vais pas rentrer dans les définitions concrètes, qu'est-ce que ça veut dire un agent, mais on va dire que c'est un logiciel qui a plus ou moins d'agence, donc la capacité d'accomplir les tâches par elle-même. Donc on peut avoir juste un enchaînement des actions qui sera dirigé par LLM, donc c'est-à-dire qu'on va créer un workflow, donc on va faire la recherche et envoyer le mail, donc ça c'est un workflow. Et c'est LLM qui va l'exécuter. Donc, on va créer un logiciel, donc un programme informatique qui va tenir dans 70 lignes au maximum, qui va exécuter cette workflow qui nous permet de personnaliser notre recherche et l'envoi de mail pour tes besoins. Donc, sachant qu'on peut donner les instructions à nos LLM, donc ils vont faire la recherche des nouvelles sur le sujet de l'IA agentique dans le domaine de droit. Donc ça, on peut préciser juste comme on fait un prompt, on le précise pour un autre agent et il va exécuter ses tâches pour notre précision. Donc ça, c'est quelque chose assez défini et assez facile à créer. Et après, il y a d'autres agents, les agents un peu plus généraux, qui vont avoir accès à plusieurs outils. On dit souvent l'agent, c'est LLM augmenté par les outils. Donc, c'est ce que search, calculatrice, rédaction de code, les logiciels que vous avez créés, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un LLM avec les bras qui va pouvoir exécuter quelque chose, utiliser d'autres logiciels. Donc, et là, l'agent génératif, il va avoir accès aux plusieurs outils qui on peut définir. On va lui donner juste un prompt, crée-moi un site web de développement, enfin de design, d'architecte. Et il va faire lui-même, il va écrire, faire les descriptions, trouver les images, construire le back-end, front-end, réserver le domaine, mettre tout ça en ligne, sans nous demander rien, enfin aucune décision. Donc ça, c'est le type, c'est le Manus, un des plus connus. Donc c'est un agent chinois qui nous permet de faire ce genre de choses actuellement.
Alors, puisqu'on est sur le sujet de la souveraineté, j'ai du mal à comprendre comment on peut préserver la confidentialité de nos données en faisant tourner sur sa machine un agent qui peut faire autant d'actions et avoir accès à autant de données.
Alors ça, c'est deux choses pas compatibles. On est d'accord. Non, après, c'est pas vrai, parce que le modèle de DeepSeek, il est open weight, et on a accès à ces paramètres, donc on peut l'héberger sur le serveur local, comme j'ai expliqué au début, donc chez OVH, et on peut faire appel à ce modèle pour prendre les décisions, donc ça, on va avoir la solution complètement souveraine, d'accord? Parce qu'il ne va pas communiquer avec les serveurs chinois. Par contre, le Manus qui est hébergé en Chine, bon, là, on a un petit problème.
Ok, un gros problème.
Après, okay. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez partager vos données avec les Américains, avec les Chinois? Bon, avec les Chinois, ça change un peu. Donc, ça, là, vous créez les deux ordres dans les bases de données américaines.
Ok. Ouais. C'est fascinant, c'est passionnant. Tu me dis trop de choses. J'ai 1 milliard de questions. Donc là, on va l'avance. Enfin, la suite, ça va être sur les verticalités. Donc, les agents, l'IA va se spécialiser entre guillemets. Et c'est peut-être pour ça également que dans ton ouvrage, tu évoques l'avenir des différents métiers. Puisque avec chaque verticalité, ils vont aller plus loin. Puisque c'est, on parle d'IA et de droit. Quel est l'avenir du droit avec ce développement de l'IA, selon toi?
Je pense que vous allez avoir beaucoup de travail. Je pense qu'il faut réinventer le droit, parce que je vois le développement de droit sur deux directions. La première chose, c'est la productivité des avocats, des notaires, les gens qui exercent le droit. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de documentation et les gens, ils passent beaucoup de temps pour faire la recherche. Donc, ce ne sera plus le cas, c'est déjà plus le cas aujourd'hui. Donc, on peut automatiser la recherche, on peut trouver les cas qui se ressemblent, on peut trouver l'information qui manque, on peut vérifier pour le IP, est-ce que le brevet existe ou pas. Donc, ça, les LLM, ils sont parfaits pour ça, donc on peut faire les summarisations, etc. Sauf, bien sûr, il faut faire attention et vérifier chaque fois les résultats, parce que l'erreur, elle peut coûter très, très, très cher. Donc, on connaît les histoires que le barreau, il était retiré aux États-Unis, etc., parce qu'il y a à l'inventer les cas qui n'existaient pas. Donc, bien sûr, évidemment, il faut que l'humain, il reste dans les boucles, surtout dans les... l'application très, très, très cruciale, comme les finances, la santé, les droits. Donc, si ChatGPT va me recommander une série que j'aime pas, c'est pas très grave. Mais si ChatGPT me donne l'information fausse sur la justice, c'est quand même très grave. Donc, ça, c'est la première chose qui est déjà redémarrée. Donc, deuxième chose, c'est quand même, il va avoir l'impact. Ce qu'on explique dans notre livre, comme tu as mentionné, il va avoir l'impact sur tous les métiers. Donc, surtout les métiers qui travaillent dans le bureau, donc l'école plan, évidemment. Donc, il faut être prêt et c'est à nous de repenser nos métiers aussi. C'est à nous de se réinventer. C'est rien grave, ça nous arrive de temps en temps dans l'histoire de l'humanité qu'il faut repenser nos métiers, il faut changer, adapter. Et si on a les simplifications de gestion de texte, l'avocat, il va avoir plus de temps pour se concentrer sur son vrai métier. Qu'est-ce que ça veut dire un avocat? Qu'est-ce que c'est un bon avocat? Un bon avocat, c'est quelqu'un qui va prendre le soin de son client, qui va le connaître, qui va connaître son business, sa vie, et qui, si jamais il y a un problème dans le business, qui va le prévenir en avance, qu'il ne faut pas faire ça, et pas celui qui va résoudre les problèmes là où le mal elle était déjà faite. Donc pour moi, c'est ça le bon avocat. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette direction-là. Et après, la troisième direction, c'est que là, avec l'IA, on va s'amuser. On va avoir tellement de cas d'usage qu'on n'a pas imaginé avant. Et les droits actuels, il n'est pas du tout prêt. Et il faut repenser toutes les législations. Qui est responsable? Si l'IA fait une erreur, c'est la responsabilité de qui? Je crois que c'est une question toujours ouverte. Et il n'y a pas de définition. On n'est toujours pas d'accord. Donc, IP, qui appartient finalement à IP si
La propriété
ChatGPT utilise
intellectuelle, oui.
la propriété intellectuelle, à qui il appartient, à l'IA ou à la personne qui a donné ces données sans le connaître de toute sa vie, c'est la création comme Ghibli, pour maintenant que l'IA elle crée les petits Ghibli partout. Donc c'est quand même une grande question où je pense les juristes ils vont voir le travail sans fin. Voilà.
Tout à fait. Pour ceux qui, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre son mode de fonctionnement et d'anticiper ce qui va venir, parce que pour mieux défendre les justiciables, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette technologie.
Exactement. Et là, on va avoir les agents qui vont nous représenter en ligne, parce que ça, c'est aussi la nouvelle vague qui arrive. Donc là, il y a les entités digitales qui vont circuler en ligne, qui va faire réservation des restaurants, les achats, les choix, recommandations, etc., qui vont avoir accès à notre carte de crédit et ils vont accomplir les tâches en ligne. Donc, qui est responsable?
C'est
Donc,
ça.
je pense que c'est un sujet très, très intéressant et il y a beaucoup de travail et je pense que la solution parfaite, elle n'existe pas, mais il va falloir trouver quelque chose et un très court terme.
Tout à fait. Alors la question du consentement à l'ère de l'IA est primordiale. Consentement dans les actions, dans les actions, enfin volontaires comme involontaires. Hein. Si je laisse l'accès à un agent pour commander à ma place non pas une mais 1 000 bouteilles de shampoing, c'est sur mon compte en banque que les 1 000 bouteilles sont débitées. Donc est-ce que je suis responsable de ce paiement ou est-ce que c'est l'outil qui a été développé qui est responsable parce qu'il y a une erreur qui a été commise. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent. Ouais,
Exactement.
Bon, parfait. Alors, c'est extrêmement riche et j'ai d'autres questions pour toi si tu as encore un peu de temps à m'accorder. Donc là, on a vu pour l'évolution du métier d'avocat, on a vu que les verticalités allaient se développer, donc qu'elles seraient plus spécialisées et plus efficaces. Et j'ai envie de revenir vraiment à cette question de souveraineté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la maîtrise, pour contribuer à avoir une IA souveraine, pour avoir une IA qui représente nos valeurs démocratiques? Quels sont, pour n'importe quelle entreprise ou particulier, les réflexes à avoir?
Je pense que, donc, ici, on ne va pas parler juste de souveraineté culturelle, mais aussi de souveraineté économique, parce que ce qu'il fait l'IA, il permet d'être plus efficace, plus rapide, donc accélérer les processus, avoir moins de gens engagés dans les processus, prendre les décisions plus rapidement, exécuter plus rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut redresser l'économie, qui est très lourde, et on connaît qu'en Europe, l'économie industriel, il est très développé, il est assez développé. Et à mon avis, ce qui permet de gagner en souveraineté, surtout en souveraineté économique, c'est redresser l'économie industrielle. Donc, ça veut dire qu'on pourrait appliquer l'IA dans le domaine industriel, ce qui n'était pas encore fait parce que l'IA d'aujourd'hui, il est très généraliste. Par contre, si les grandes entreprises françaises, européennes, ils ont trouvé une moyen stratégique pour construire un LLM bien pour leur business, ça peut améliorer les performances économiques. Donc, comme j'ai dit, un LLM bien pour leur business. Ici, on ne parle pas que de langage. Donc, je peux vous donner l'exemple de nouvel algorithme de Netflix qui est déjà fonctionnel. Ils ont couplé deux systèmes de recommandation. Donc, qu'est-ce qui fait Netflix? Il vous fait recommandation des contenus en ligne. Vous avez trois canaux d'interaction avec contenu en ligne. C'est par le barre de recherche, c'est par l'interaction et enfin, sur le feed et sur l'interaction de collaborative filtering. Donc c'est quand vous avez regardé une série, il va vous proposer une série qui sera ressemble à celui-ci. Sauf que il était assez bien, on connaît bien Netflix, c'est compliqué à s'arrêter parfois. Mais il n'était pas parfait. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné un foundation model. Donc, foundation model, c'est ce qui est, enfin, c'est avant LLM. Donc, LLM, c'est pour le langage. Foundation model, c'est pour représenter n'importe quelle séquence. Donc là, ils ont entraîné sur l'interaction d'utilisateurs sur le contenu en ligne.
OK.
Et très étrangement, ça marche. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous avez regardé une séquence des films, leur foundation model, il va vous prédire les prochains films que vous voulez regarder. Donc, et ça, c'est ce qui est déjà en ligne, c'est ce qui marche. Et ils ont prouvé, donc Netflix, c'est une industrie de système de recommandation, c'est une des plus fortes. Donc là, on ne va pas nier les faits. Mais je trouve les choses surprenantes, ce que les gens ne se rendent pas compte, qu'on peut mettre pas juste les textes et les lettres, mais n'importe quelle séquence. L'autre exemple, c'est Stripe. Stripe, ils ont fait la même chose avec les paiements. Ça veut dire qu'ils ont mis les séquences de paiements, ils ont entraîné leur propre modèle pour prédire les prochains types de paiements. Ce qui fait, c'est diminue le nombre de fraudes, etc. Donc, ce que les industries françaises, européennes, elles peuvent faire, c'est réfléchir dans ces sens-là et de voir quel type de modèle foundational model elles peuvent développer pour le retail, pour la production, pour tous les types d'industries qui existent chez nous. Donc, je pense que c'est une question plus grande, stratégique. C'est pas juste comment on implémente ChatGPT. Donc ça, ils ont déjà compris comment faire, ils ont déjà... Toute l'entreprise, grande entreprise à mes connaissances, les banques, ils ont déjà leur chatbot interne qui leur permet de communiquer avec eux. Mais ils n'ont pas encore repensé ce changement d'entreprise profond. C'est ce qu'on explique dans notre livre, c'est qu'il faut penser à un changement profond parce que l'IA, c'est le grand changement du 21e siècle et les acteurs qui existent aujourd'hui, s'ils ne vont pas adapter ces technologies, ils risquent de disparaître. Tout accélère. On accélère dans la création de business, mais on accélère aussi de décréation de business. Si on va prendre l'exemple du banque, il y a 10 ans, il y a Neobank Conto qui est apparu, qui a pris le marché des indépendants. Et je ne connais aucun indépendant qui n'utilise pas Conto dans sa vie quotidienne parce que le workflow, il est hyper simple. Il est optimisé, il est rapide, il est simple, etc. Et les grandes banques, elles n'arrivent pas à faire ce pas, même s'il essaye, il n'arrive pas. Donc, ça va arriver à d'autres industries. Et sachant qu'aujourd'hui, pour recréer les néobanques en Conto, il ne faut pas 10 ans, il faut 1, 2, 3 ans. Et ce sera valable pour toutes les industries. Donc, c'est ça qui est les grands enjeux qu'il faut prendre en compte, que le monde ne sera pas le même qu'hier. Si on va prendre l'exemple de notre livre, on cite une boîte qui s'appelle PMG. Donc, c'est une boîte de création de campagne marketing pour les grands groupes. Leurs clients, c'est Netflix, Nike, Apple, etc. Donc, c'est les grands groupes, ils sont 800 et ils sont basés à Dallas. Ils ont été en train de chasser en personne, un CTO, la personne extrêmement technique qui a fait le développement de back-end depuis 20 ans. Et ils ne comprenaient pas pourquoi une boîte de marketing, de pub, chasse une personne si technique. Et après, il a compris qu'ils sont en train de changer toute leur verticale. Les personnes techniques, elles pèsent plus que les personnes marketing. Toutes leurs boîtes et les boîtes technologiques. On n'a pas parlé à propos de création, mais création, c'est aussi un des verticales qui est en train de changer drastiquement. Donc là, ils sont en train de mettre les outils qui permettent de créer les clips vidéo grâce à l'IA. Et avant, il fallait tourner un clip, prendre Angelina Jolie, amener à Maldives ou à Hawaï pour faire telle lumière avec telle tenue. Ça coûtait les millions de dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut faire les mock-up, on peut présenter ça à nos clients, voir comment l'audience va réagir à telle pub. et créer les pubs sans sortant chez nous. Et là aussi, l'évolution de l'IA, il est extrêmement forte. Aujourd'hui, comme on voit les avatars qu'on est capable de créer, ils sont franchement très réalistes. Et cette boîte, il a bien saisi le problème. S'ils n'adaptent pas leur business model, s'ils ne deviennent pas une boîte profondément technologique, ils vont disparaître. Google, c'est, enfin, Tesla, par exemple, c'est pas une boîte de voitures, c'est une boîte de software.
Okay. Ouais, ouais. C'est, y a une info récente qui m'a interpellée, c'est le rachat par OpenAI du designer de Apple pour 6,5
Exactement.
Milliards de dollars. Et ils ont embauché le PDG. Je pense que même le hardware tel qu'on le connaît va être changé pour accueillir cette nouvelle technologie dans les années à venir.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment unique dans l'histoire, peut-être dans ma génération, pour construire quelque chose. Donc là, ces nouveaux stacks qui arrivent, tout change hyper vite, mais on peut repenser chaque solution. On peut repenser comment on écrit les mails, comment on interagit avec chacun, comment on utilise les réseaux sociaux, comment on communique, comment on travaille, comment on crée. Toute l'industrie doit être repensée. Et ceux qui vont saisir cette fenêtre et faire quelque chose de façon intelligente, éthique bien sûr, et responsable, parce que ça c'est ce qui va rester après nous pour nos enfants, donc il faut aussi définir dans quel monde on veut habiter, et de façon frugale, parce que l'IA c'est très, on n'a pas à voir d'ici, mais c'est très consommateur dans les ressources naturelles, dans l'eau, dans l'électricité, donc tout ça il doit être repensé, et c'est un moment parfait pour reconstruire le monde en faisant le mieux, mais il faut aussi être vigilant pour que pas y ait les autres personnes qui les créent, recréent, mais un pire. Voilà.
Tout à fait. Alors, tout à fait. Voilà. Et j'ai même envie de finir sur cette question de ce que tu peux voir dans tes passages. Alors, j'aimerais déjà que tu nous expliques un petit peu les différences que tu vois entre l'IA dans la Silicon Valley et en France. Et de ce que tu peux voir, est-ce qu'on est en train d'exploiter plus l'IA à des fins positives ou à des fins négatives?
Alors, mon expérience, il est très... il est difficilement... je peux le décrire difficilement, parce qu'en France, on connaît bien l'IA. On parle souvent d'inclusion, de diversité, de biais, de frugalité, des ressources, etc. Il y a beaucoup de boîtes qui forment, donc on voit un bel écosystème, même des boîtes tech en France, donc il y a les belles solutions, avec l'angle européen, responsable et protectionniste, on va dire. Aux US, c'est pas du tout le cas, parce que aux US, c'est une industrie, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est une industrie de taille... de Silicon Valley plus San Francisco. Donc là-bas, chaque mètre carré, c'est une boîte tech et qu'ils ont leur roadmap. Donc eux, ils ont dans le développement, dans le cycle continu de la production. Ils ne se posent pas la même question. Ils produisent quelque chose, ils ont les objectifs, ils doivent exécuter ces objectifs sans souvent passer. Et j'ai parlé avec les créateurs de systèmes de recommandation de Netflix. Donc c'est ce qu'ils ont mis en place, ce modèle fondamental pour entraîner sur les interactions des clients. Et cette fille qui est très gentille, elle adore la France, c'est une Indienne, comme souvent ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Indiens qui développent les solutions. Elle-même, elle s'interroge sur le monde sur lequel elle va habiter. Mais c'est elle qui crée les systèmes. Mais elle ne se rend pas compte du tout. Donc c'est un autre monde, c'est difficile à décrire. Ils se posent pas la même question sur le développement. Ils y vont parce que c'est leur vie. C'est comme on est engagé dans un processus, on ne se pose pas beaucoup de questions, même si on devrait. Mais quand ça provient de leur part, et il y a beaucoup de gens brillants, et ils sont pas méchants. Personne n'est méchant là-bas. Personne ne dit « je vais faire une IA pour détruire le monde ». Mais c'est juste que le course, il est tellement engagé que les produits doivent être livrés et que c'est qui est le plus fort et plus rapide que... Il avance sans regarder, sans se poser les questions. Qu'en France, on a plus cette tendance de se préserver, de voir ce qui se passe, mesurer les risques et agir après. Donc, quelle approche est la meilleure? La question ouverte, parce que est-ce que c'est mieux d'être plus prudent et rater le course? Ou est-ce qu'il faut accélérer, se mettre au développement au niveau des autres et après s'inviter à la table de discussion et imposer ses règles? Ça, c'est une question qui est très ouverte. Et pour donner l'exemple, quand on a développé une voiture, c'est super dangereux, n'est-ce pas? Il y a deux roues, les voitures de début, c'était n'importe quoi, ça roulait mal, ça tournait mal, etc. Et d'abord, on a développé les voitures, des voitures qui marchent, qui roulent droit et qui tournent. Et après, on a mis les règles, et on a mis les règles de conduite, les ceintures de sécurité, tout ce qu'il faut qui va avec les voitures aujourd'hui. Donc peut-être avec l'IA, c'est la même chose.
Donc tu fais partie de ceux qui placent l'innovation avant la régulation?
Je pense que régulation, il doit exister, bien sûr. Je pense qu'il faut prendre en compte les risques, il faut les connaître. Mais il ne faut pas s'empêcher à développer à cause de cette réglementation. Aujourd'hui, ce que je vois beaucoup en France, c'est qu'il y a l'IACT. Mais souvent, l'IACT, c'est un prétexte. L'IACT, il ne touche pas à l'application. Mais cette système, cette partie où on attend partout les réglementations liées à dangereux, etc., ça nous empêche d'avancer. Peut-être on peut créer super applications d'éducation. Il y a les choses importantes, je parle beaucoup dans le livre, je pense que l'éducation de nos enfants, il doit être repensé de A à Z. Moi, j'enseigne à l'université et j'ai vu que le système, il est cassé. Et aujourd'hui, ce que les gens voient dans la vraie vie et ce qu'ils apprennent, c'est pas la même chose. On doit connecter ces deux vies. Avec l'IA, c'est encore pire. On doit les apprendre d'utiliser l'IA. On ne peut pas les empêcher parce que c'est leur vie, c'est leur futur. Ils ont né, ils ont émergé dans le monde de l'IA. Il faut qu'ils apprennent de l'utiliser. Il faut repenser tout. Mais je pense qu'à cause de cette nuage de réglementation, de restriction qui est fausse par définition, on empêche les gens de respirer et de créer librement. Essayer les choses. Voilà, c'est ça ce que je pense.
Donc, tu es clairement innovation avant régulation. Mais je pense aussi que c'est parce que tu dois en voir tellement dans tes passages en Amérique du Nord que tu vois en fait cette marche effrénée et tu as l'impression qu'on est au ralenti ou qu'on n'a pas démarré la course en Europe suffisamment tôt.
Je pense qu'on a démarré le course, mais j'aimerais bien être dans la table de négociation comme il va falloir négocier les droits mondiaux.
C'est ça, oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est voilà, il y a une, c'est une question mondiale aujourd'hui. Ouais, ouais.
Si je vous donne ce que les gens pensent aux Californiens à propos de l'Europe, ils disent c'est trop compliqué, on n'y va pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à toutes les applications qu'eux l'utilisent, même s'ils n'ont pas dangereux. Pour eux, ce n'est pas un problème, souvent, de ne pas aller en Europe. Mais est-ce que pour l'Europe, ce n'est pas un problème que les applications n'arrivent pas jusqu'ici?
Parce que du coup, en fait, on n'apprend pas à les utiliser et lorsqu'on va les avoir, il sera déjà trop tard. Mais alors après, alors moi, je fais partie de cette catégorie qui trouve quand même essentiel de réguler avant d'innover, même si je suis très, très ouverte à l'innovation. Parce que en fait, il faut quand même protéger les gens de certaines créations. Là, le président américain a signé un décret contre les nude revenge où il crée des deepfakes de personnes parce qu'en fait, ça détruit des vies aussi. Donc, il faut aussi protéger l'homme de l'homme en parallèle de cette innovation. Et je crois que l'équilibre est peut-être au milieu.
Peut-être, mais ici, pour créer les réglementations, il faut d'abord savoir contre quoi on protège la population. Pour l'instant, il n'y a pas de base de faits accomplis qui prouvent que la technologie, elle fait du mal. Donc, on ne sait pas quelle technologie, elle fait du mal ou du bien. Donc, et pour cela, il faut aussi créer un système qui va permettre de mesurer cet impact. Et pour cela, il faut avoir les points de départ, donc mesurer, je ne sais pas comment, mais mesurer l'état actuel, où on est, comment sont nos enfants, comment sont nos humains, nos employés, etc. Donner dans les mains des outils, pardon.
Oui, d'un
Et
tout à fait.
après, mesurer dans temps X l'impact, pas l'état numéro 2. Et voir l'impact et dire eh, ok, on a dégraissé, on a amélioré, etc. Mais pour cela, il faut créer la base. Et je pense qu'ici, où il faut travailler du point de vue de réglementation pour d'abord mesurer contre quoi on peut protéger. Donc, je ne suis pas contre réglementation, mais je pense qu'il faut. Je suis contre les impositions dans les têtes des gens que la réglementation, il détruit l'innovation. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'IA Act, il ne détruit pas l'innovation, qu'on peut créer, on peut essayer les choses et que les Français, les gens français, pas les jeunes, tout le monde qui a envie d'essayer, créer un logiciel, un outil ou résoudre un problème, c'est possible aujourd'hui grâce à l'informatique, grâce aux outils, même si on n'est pas les codeurs, les développeurs, comme on a déjà évoqué, qu'on peut créer un MVP dans n'importe quel contexte pour améliorer notre travail, pour être plus efficace, pour passer plus du temps avec nos patients, avec nos clients, etc. Je pense qu'il faut oser, il ne faut pas juste se concentrer sur le... sur la réglementation. Et il faut créer cette base qui va nous permettre de mesurer l'évolution de progrès créé par cette innovation. Voilà, ça, c'est mon opinion.
Merci beaucoup. Alors, ça a été, c'était très clair. Je t'avoue que dans tout ce que tu as pu dire, il y a eu des moments où j'ai eu un peu peur. On a ce sentiment d'angoisse par rapport à l'évolution rapide et quand on en prend conscience. Et puis ensuite, tu m'as redonné un peu d'espoir en m'expliquant tout ce qui était possible de faire. Surtout, je comprends que les choses avancent très vite. Je te propose de refaire un point dans quelques mois et peut-être que la réalité sera tout à fait différente. Et pour voir où en sont les agents, où en sont notre métier et où en est la régulation, qui sait. En tout cas, je te remercie infiniment pour toute cette information et ton temps. Et j'espère te revoir très rapidement dans ce podcast.
Cool, merci beaucoup à toi, Sophia. C'était plaisir d'échanger, même si nos opinions ne sont pas tout à fait convergentes. J'espère que ça donne un bon piment en nos débats.
Bon.
Merci.
Et n'oubliez pas de vous abonner.